Le débat africain, Namori Dosso.
Bienvenue dans votre émission, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du débat africain sur RFI. Ce samedi, place au regard des éditorialistes du continent. Comment l'actualité marquante cette semaine a-t-elle été perçue de Yaoundé à Cotonou en passant par Abidjan ? Nos consoeurs nous livrent leur point de vue sur ce monde en perpétuel mouvement. Dans la deuxième partie de ce débat africain, nous reviendrons sur le retour au pouvoir des travaillistes au Royaume-Uni. La formation dirigée par Keir Starmer a remporté une victoire écrasante aux législatives ce jeudi, mettant fin à 14 années de règne conservateur. Enfin, discussion autour du cas Joe Biden aux États-Unis. Le président américain, candidat à sa réélection en novembre prochain, suscite les doutes chez une partie des dirigeants et des électeurs démocrates quant à sa capacité à gouverner. Après son débat raté face à Donald Trump sur CNN, comment sauver le soldat Biden âgé de 81 ans ? Doit-il céder la place à un candidat plus jeune ? On en parle tout à l'heure. Mais tout de suite, l'effet marquant en Afrique, avec une question. Comment résoudre le contentieux diplomatique qui oppose depuis près d'un an le Bénin et le Niger ? Depuis le coup d'État au Niger en juillet 2023, les dirigeants des deux pays se livrent à un bras de fer au sujet de l'ouverture de la frontière commune côté nigérien et du transport du pétrole nigérien vers les côtes béninoises. Des initiatives pour apaiser la situation ont été prises, mais seront-elles suffisantes ? On en parle avec nos éditorialistes. Enfin, discussion sur la Mauritanie. Ce jeudi, Mohamed Ould Cheikh El Razouani a été officiellement proclamé vainqueur de la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Aucun incident majeur lors de ce scrutin dans un pays sahélien qui semble être préservé des maux dont souffrent ses voisins maliens, nigériens, guinéens et burkinabés. Y aurait-il une exception mauritanienne au Sahel ? Et si oui, pourquoi ? Nous posons la question à nos invités. Avec nous, en studio, Karine Oriot, correspondante en France de la chaîne de télévision camerounaise Canal 2 International. D'Abidjan, Côte d'Ivoire, Fatim Djedji, journaliste ivoirienne et présentatrice du magazine d'information Ailleurs dans le Monde sur la RTI. Enfin, de Cotonou, Wuldat Mama, consultante et spécialiste des questions internationales sur l'Office de radio-télévision du Bénin. Bonjour à toutes les trois et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Namori. Bonjour à tous.
À toutes.
Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger ? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami.
L'agacement du président béninois Patrice Talon au sujet de la situation avec son voisin, le Niger. Est-il encore possible de réconcilier les dirigeants nigériens et béninois ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans le débat africain sur RFI. Et nous vous en parlons régulièrement sur cette antenne. Cela fait des mois que les deux pays, dont les populations sont liées socialement et économiquement, vivent dans un climat de tension, pour ne pas dire de défiance, entre Niamey et Porto Novo. En cause, le refus des autorités nigériennes de rouvrir la frontière avec le Bénin après la levée des sanctions décidées par la CEDEAO. Le régime du général Tchiani soupçonne le pouvoir de Patrice Talon d'abriter des bases dont l'objectif serait de déstabiliser son pays, ce que les autorités béninoises ont toujours réfuté. Wuldat Mama, consultante et spécialiste des questions internationales pour l'ORTB au Bénin, Niamey accuse les autorités béninoises d'abriter des bases militaires, notamment françaises, sur son territoire. Ces accusations sont-elles justifiées ?
Elles sont infondées, étant donné que le régime nigérien, excepté eh bien, un feuillet agité hein, par le Premier ministre Ali Lamine Zeyn, n'a pas pu apporter concrètement les preuves hein, de ces dangereuses, de ces graves accusations qui ont été avancées. Et puis, il faut dire qu'elle pose un problème à double titre. Donc, premièrement, le manque de preuves et deuxièmement, un manque de cohérence parce que eh bien, le Tchad voisin abrite eh bien, des bases militaires avérées, non seulement de la France, mais également des États-Unis. Et cela ne semble poser aucun problème au CNSP nigérien. Mais de façon globale...
Est-ce à dire qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures de la part des dirigeants de Niamey ?
Oui, certainement, il y a un manque de cohérence dans la ligne qui est défendue par le CNSC, parce que si les bases militaires avérées au Tchad ne posent aucun problème à la sécurité du Niger, pourquoi des bases dont la présence n'a pas été éprouvée au Bénin menacerait l'intégrité du CSP nigérien?
Mais alors, Wuldak Mama, juste une question, oui. Wuldak Mama, est-ce que le Bénin abrite des bases militaires étrangères sur son territoire?
Mais il n'y a pas de preuve de cela, les autorités béninoises.
Il n'y a aucun militaire étranger sur le territoire béninois.
Il y a des instructeurs français, effectivement, dans des bases militaires, notamment celle de Kandy, qui assistent les militaires béninois dans la riposte antiterroriste, parce qu'aujourd'hui on sait que la menace s'est métastasée au pays du Golfe de Guinée, mais en aucun cas il y a en soi des bases militaires, encore moins 5 bases militaires telles que lancées par le CNSP nigérien.
Alors je me tourne vers Karine Orion avec nous en studio, correspondante en France de la chaîne de télévision camerounaise Canal 2 International. Karine, est-ce que vous comprenez la position des autorités nigériennes dans cette affaire? On a l'impression qu'elles se sentent menacées par un danger qui n'existe pas forcément.
Je pense surtout que la pilule n'est toujours pas passée depuis la décision du président béninois Patrice Talon d'intervenir à la suite du coup d'État, vous vous en souvenez très bien.
Il faisait partie de la ligne dure de la CDAO.
Tout à fait, il était d'ailleurs pour une intervention militaire. Je pense que ça, ce n'est jamais passé auprès du général Tiani et de toute l'équipe aujourd'hui en place au Niger. Et puis par ailleurs, ce que je tiens aussi à souligner, c'est qu'on ne mentionne pas souvent dans cette crise l'ego du sahélien. C'est-à-dire que le sahélien a un ego qui, je suis désolée, est aussi au centre de cette tension.
Donc toute cette affaire serait une affaire d'ego, c'est ça ?
Il y a aussi ça, parce que comment est-ce que vous expliquez quand même que ce pétrole est censé redynamiser l'économie locale, l'économie d'une part du Niger, mais également du Bénin, et qu'on est toujours face à un blocage. Qui a injecté de l'argent? On sait que c'est la Chine qui a injecté 400 millions, il me semble, de dollars, qui a avancé les frais au début. Et que, justement, en tout cas, le Niger et le Bénin comptaient sur ce transport d'or noir pour renflouer les caisses de l'État, mais aussi pour redonner de l'emploi. Alors, on est quand même bloqué parce qu'il y a des soupçons de part et d'autre. Comme, on le dit, il n'y a aucune preuve de l'existence de bases françaises au Bénin, parce que ce que disent aujourd'hui le général Tiani, ce que dit le général Tiani, c'est qu'il défend le fait qu'il est possible qu'une intervention française parte du Bénin. On ne sait pas.
En tout cas, c'est plus à l'ordre du jour.
C'est ce qu'il annonçait. Mais ce qui est bien, c'est que visiblement, dans cette crise, on avance, puisque déjà, il y a une reprise du dialogue.
Alors justement, on va revenir.
C'est bon signe.
On va revenir sur les tentatives de médiation lancées pour apaiser la situation entre les deux pays. Mais lors d'une récente conférence de presse, Ali Mahamat Lamine Zeyn, le premier ministre nigérien, rappelait que certains pays de l'organisation se seraient montrés hargneux à l'égard de son pays. Et parmi ces pays, d'après le chef de gouvernement nigérien, il y aurait eu le Bénin. Fatim Djedji, journaliste pour la RTI en Côte d'Ivoire, la discorde nigéro-béninoise ne serait-elle pas en fin de compte, comme nous le disait il y a quelques instants Karine Rio, un espèce de règlement de compte entre dirigeants sahéliens?
C'est forcément un règlement de compte, mais d'abord, et je pense que c'est, on va dire, la trame de toutes ces discordes, ça reste la création de l'AES et ça reste la division au sein de la CEDEAO. Et je pense que le Niger, qui est venu, qui est finalement l'acte 3 de ce qui se passe avec les coups d'État, poursuit dans la même veine. Nous, on a connu ça en Côte d'Ivoire avec l'histoire des colonels soldats.
Qui avaient été retenus au Mali.
L'idée qu'il y a un problème sécuritaire, des gens qui sont arrêtés, des procès, des sanctions, des sentences qui tombent, des négociations. En fait, je pense qu'on est dans une logique et que la vraie problématique, c'est l'avenir de l'intégration régionale, c'est l'avenir de la CEDEAO.
Et alors, dans le fond, ce que vous nous dites, Fatim Djedji, c'est que d'une certaine manière, les autorités du Niger n'ont pas vraiment accepté, compte tenu des liens de voisinage entre le Bénin et le Niger, que le Bénin ait pris fait et cause pour la CEDEAO lors du coup d'État.
Alors certainement, mais je pense que de manière générale, parce que là, il y a un lien à cause de la proximité, c'est un pays limitrophe, donc c'est plus facile. Comment comprendre un pays qui se plaint des sanctions, qui désire les conserver, au fond? Ça n'a pas de sens. Maintenant, le rôle de Talon pour relativiser, je pense qu'il a été envoyé comme émissaire. Son avion n'a même pas pu atterrir. Maintenant, est-ce qu'il a tenu en off des propos plus virulents que d'autres? Je ne suis pas convaincue. Donc, moi, je pense encore une fois que la seule question qui vaille, c'est l'avenir de cette intégration régionale. On sait que l'AES se réunit aujourd'hui samedi à Niamey, justement. Assimi Goïta et Ibrahim Touré vont aller sur place. On sait aussi que le prochain sommet de la CEDEAO des chefs d'État a lieu ce week-end. Donc, beaucoup de choses vont se passer. Et même la CEDEAO, son Parlement, a décidé de s'immiscer dans ce conflit bilatéral pour essayer de trouver des solutions.
Alors, juste après la levée des sanctions par la CEDEAO contre le Niger, le Bénin a rouvert sa frontière, ce qui n'est toujours pas le cas côté nigérien. Le Bénin a donc réagi et suspendu son autorisation de charger le pétrole nigérien de son port de Semikpoji, contrairement à l'accord signé en 2019 entre les deux États et WAPCO, la société chinoise qui gère l'oléoduc géant qui relie le champ pétrolier d'Agadem dans le nord-est du Niger au port béninois. La semaine dernière, Thomas Boniyayi et Nicéphore Soglo, deux anciens présidents béninois, ont été accueillis au Niger par le général Tiani. Une rencontre qui a duré 3 heures. Aucune déclaration n'a été faite à la sortie de cette audience. Boniyayi et Nicéphore Soglo sont ensuite allés voir le président Talon à qui ils ont rendu compte de leur entretien avec les autorités du Niger. Et il se pourrait que dans les prochains jours, une délégation du Niger soit reçue à Cotonou. Est-ce le début de la réconciliation, Ouldat Mama ?
Oui, avant tout, Namori, je voudrais préciser ici, à mon sens, que toute la séquence d'événements que vous avez rappelée, eh bien, brasse des thématiques très importantes en relations internationales de l'humiliation et de la réciprocité. L'humiliation subie par le Niger avec le train de sanctions inédit voté par la CEDEAO, la contre-humiliation, cette riposte vis-à-vis...
Mais alors, ce que vous dites est intéressant, mais au sein de la CEDEAO, il n'y avait pas que le Bénin qui condamnait fortement. Or, on a l'impression que c'est le seul qui cristallise la colère du Niger.
Absolument. Il y a un autre élément ici qui est celui de la création de l'ennemi, là aussi en politique, qui permet de fédérer les populations autour d'un projet. Et il y aurait le Bénin qui serait le cheval de Troie de l'impérialisme. Le Bénin qui n'a pas été le seul, vous l'avez dit, à appliquer ces sanctions, le Nigeria également. Mais il est plus difficile de se retourner contre le Nigeria en tant que figure de l'ennemi à cause de la puissance nigériane et d'une certaine dépendance plus grande vis-à-vis du Nigeria, si ce n'est seulement sur les questions de fourniture d'électricité.
Mais Ouldat, la visite des deux anciens présidents béninois au Niger, est-ce que c'est le début de la fin de cette crise ?
Oui, alors le début de la fin, ça peut enclencher, en tout cas, ça a catalysé une reprise du dialogue, parce que jusqu'à présent, on ne se parlait plus. Donc c'est déjà un point positif à noter. Néanmoins, il faut dire qu'il semble, selon le communiqué qui a été publié à la suite de cette rencontre, que les discussions ne foncièrement portaient que sur la réouverture de la frontière entre le Niger et le Bénin, et quelque peu éluder la question du pipeline. Il faut dire que 2 jours avant, ou la veille, de cette rencontre entre les deux dirigeants béninois et le général Abarman Tiani, le Conseil des ministres nigériens avait acté la reprise d'un comité qui était censé réétudier le détournement du pipeline via le corridor Niamey-Tchad-Cameroun. La question du pipeline reste pour l'instant un peu plus difficile.
Alors j'aimerais quand même qu'on ait un petit mot pour les populations du Niger et du Bénin qui souffrent de cette situation, et une situation qui a de lourdes conséquences sur leur quotidien, notamment avec l'augmentation des prix des denrées, notamment sur les marchés. La crise entre le Bénin et le Niger, nous en reparlerons dans le débat africain, en espérant d'ici là que des solutions voient le jour pour les populations des deux pays.
Le débat africain.
La Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires des élections. Ces résultats ont montré que le peuple mauritanien a renouvelé sa confiance en ma personne en m'élisant pour un nouveau mandat. Je voudrais à cette occasion exprimer mes sincères remerciements et ma grande gratitude à tous les Mauritaniens et à toutes les Mauritaniennes, où qu'ils se trouvent et quelles que soient leurs orientations. Je voudrais dire que je considère que le véritable vainqueur de ces élections est le peuple mauritanien qui a démontré sa conscience, sa responsabilité et la maturité de son système démocratique. Je voudrais dire que je considère que le véritable vainqueur de ces élections est le peuple mauritanien qui a démontré sa conscience, sa responsabilité et la maturité de son système démocratique.
La maturité du peuple mauritanien et la solidité du système politique du pays, salué par le président Mohamed Ould Cheikh El Razouani, officiellement réélu cette semaine à l'issue du scrutin présidentiel en Mauritanie. Victoire dès le premier tour avec 56,12% des voix. Une élection qui s'est tenue dans un environnement sociopolitique global apaisé sans incident majeur, selon Domitien Ndayi Zeye, le chef de la mission d'observation de l'Union africaine dans le pays. Tout d'abord, Karine Rio, cette réélection du président mauritanien, est-ce vraiment une surprise ?
Non, non, je pense que ce n'est pas une surprise. Et puis, je pense que le président était parti déjà pour un second mandat. Ce que je tiens aussi à soulever, c'est qu'il a mis un point d'honneur lors de sa campagne à parler beaucoup des jeunes qui, comme vous le savez, des jeunes qui traversent la frontière, ne sont plus intéressés par l'Europe, mais plutôt vers le Mexique. Alors, on a hâte de voir, hein, au cours de ce nouveau mandat, ce qu'il va mettre en place pour l'éducation, puisque je rappelle quand même que si la Mauritanie fait preuve d'un succès en termes d'éradication des attaques terroristes, cependant, l'éducation et la santé sont lésées pour compte.
Élection qui, globalement, s'est déroulée dans de bonnes conditions. Pays dont la stabilité contraste avec ses voisins au Sahel. Fatim Djedjé à Abidjan, la Mauritanie serait-elle une exception dans la région ?
Alors, une exception sur le plan sécuritaire, il faut le préciser. Maintenant, le problème avec ce genre d'élection, c'est que finalement, on se satisfait du moindre mal. C'est-à-dire pas de drame, pas de meurtre, pas d'assassinat.
Alors précisons tout de même qu'il y a eu trois personnes sont mortes, hein, après des émeutes, hein, dans le pays. Mais bon, les circonstances restent encore à définir. Les autorités enquêtent sur la mort de ces personnes.
Je veux dire qu'on est habitué en Afrique à avoir des élections avec des crises préélectorales, postélectorales, des craintes de l'immixtion des militaires. Donc effectivement, on peut globalement se dire que ça a été. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a eu de l'opposition qui a contester les résultats, mais pas de procédure judiciaire, puisque le Conseil constitutionnel a entériné les résultats, je crois, définitifs. Donc, ça nous donne une sorte d'accalmie. Mais est-ce que derrière, ça couvre quelque chose de plus complexe ? Certains parlent d'un régime un peu plus autoritaire. Alors maintenant, je fais le point avec l'aspect sécuritaire. Est-ce que ça joue ? Parce qu'effectivement, depuis 2010-2011, la Mauritanie ne connaît plus d'attaque, contrairement à ces tous pays limitrophes, comme vous disiez, le Mali haut. Je rappelle que la Mauritanie abrite aussi le G5 Sahel, du moins ce qu'il en reste, et que ce président n'est pas n'importe qui, enfin le ministre de la Défense.
C'est un ancien militaire dans l'âme, entre guillemets.
Voilà, un ancien militaire qui, semble-t-il, est respecté par beaucoup, du moins en sous-région, ce qui justifie même sa nomination à la tête de la présidence tournante de l'UA. Donc c'est un pays hautement stratégique, important, dont on ne veut pas qu'il soit déstabilisé au vu de la situation sous-régionale, mais il s'avère qu'au niveau des droits, on parlait là d'éducation et du reste, on devrait être plus regardant, mais voilà, comme c'est un moindre mal, eh bien, on fait avec.
Alors, certains observateurs estiment que les autorités sous l'ère Mohamed Ould Abdelaziz, l'ancien président mauritanien, ont su faire en sorte que l'armée soit plus attractive que les groupes djihadistes. Ouldat Mamane, n'y a-t-il pas des leçons à tirer pour les pays voisins confrontés à la problématique du terrorisme ?
À mon sens, le cœur de la question ici, c'est la problématique de la négociation avec les terroristes. Alors, on a imputé une certaine intransigeance à l'ancien partenaire français qui aurait demandé aux populations et aux régimes sahéliens qu'elle appuyait de ne pas négocier avec les terroristes. Néanmoins, il faut quand même dire que ça met en exergue également la limite de l'approche de la solution entièrement militaire qui semble être privilégiée par les régimes militaires sahéliens. Il faut dire à cet égard que le Mali a suspendu les accords d'Alger en janvier de cette année, ce qui est venu encore une fois affaiblir cette ligne de la négociation avec les groupes armés. Donc tout ça a envenimé les choses, sans parler également du dialogue intermalien qui a été renationalisé par les autorités de base Bamako sur fond de tension avec l'Algérie et qui n'a pas été d'un certain point de vue assez inclusif étant donné qu'un certain nombre de groupes ont boudé cette initiative. De l'autre côté, on avait un président Bazoum qui lui était plutôt tenant justement de cette approche-là visant à négocier avec les groupes terroristes et qui a obtenu que certains d'entre eux déposent les armes, notamment en vantant l'attractivité et la réintégration de certains combattants dans les forces armées nigériennes. Donc c'est une thématique qui est de l'ordre du tabou et d'une certaine lecture des rapports de force de la part entre les groupes rebelles et les groupes terroristes qui sont parfois amalgamés par les régimes de transition et puis d'autre part les forces en elles-mêmes.
Eh bien, la situation en Mauritanie et cette dernière élection dans le pays, vous pouvez retrouver tous nos articles et contenus sur le site rfi.fr. C'est le moment de faire une courte pause dans ce débat africain. Restez avec nous juste après le journal. Nous parlerons du Royaume-Uni où les travaillistes reviennent au pouvoir après 14 années d'absence. Discussion également au sujet du commander-in-chief aux États-Unis. Joe Biden, 81 ans, est-il le meilleur candidat pour les démocrates dans la course à la présidentielle ?
Le débat africain, Namori Dosso.
Merci d'être avec nous dans la seconde partie du débat africain sur RFI, une émission consacrée cette semaine au regard des journalistes et éditorialistes africains sur les temps forts dans un monde en perpétuel mouvement. Trois consoeurs du continent sont avec nous. En studio, Karine Orio, correspondante en France de la chaîne de télévision camerounaise Canal 2 International, d'Abidjan, Côte d'Ivoire, Fatim Djedji, journaliste ivoirienne et présentatrice du magazine d'information Ailleurs dans le Monde sur la RTI. Enfin, de Cotonou, Wuldat Mama, consultante et spécialiste dans les questions internationales pour l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin.
By all means, enjoy this moment.
Profitez donc de ce moment. Personne ne pourra dire que vous n'avez pas attendu patiemment. Appréciez le sentiment de vous réveiller un matin comme celui-ci, avec l'émotion de voir le pays à travers les mêmes yeux. Accrochez-vous à ce sentiment, car c'est de lui que naît l'unité. Mais utilisez-le pour montrer au reste du pays, comme nous devons le faire, que ce parti a changé, que nous le servirons fidèlement et que nous gouvernerons pour tous les citoyens de ce pays.
Un succès massif, mais pas historique. Le Parti travailliste a repris le pouvoir au Royaume-Uni. La formation dirigée par Keir Starmer, que l'on vient d'entendre, a littéralement balayé le Parti conservateur aux élections législatives ce jeudi. Après 14 années de règne, les conservateurs, dont la défaite était annoncée, n'ont rien pu faire à l'image du Premier ministre Rishi Sunak, arrivé au pouvoir en octobre 2022. Ce jeudi, il admettait et endossait la responsabilité de la défaite.
Le Parti travailliste a gagné ces élections législatives et j'ai appelé Sir Keir Starmer pour le féliciter de sa victoire. Aujourd'hui, le pouvoir va changer de main de manière pacifique et ordonnée, avec la bonne volonté de toutes les parties. Cela devrait nous donner confiance en la stabilité et l'avenir de notre pays. Le peuple britannique a rendu ce soir un verdict qui donne à réfléchir.
Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. Après le Brexit et Boris Johnson, les Britanniques ont donc choisi le Labour et son dirigeant Keir Starmer, un homme qualifié de modéré au centre-gauche. Karine Orio, selon les observateurs, il s'agit d'un tournant. Selon vous, à quoi est-il dû ?
C'est simple, les conservateurs en Grande-Bretagne ont fait vivre aux citoyens anglais des montagnes russes, entre des personnages quand même assez particuliers, Boris Johnson, qui était un sacré personnage politiquement, et puis Liz Truss, qui a quand même fait peur à tout le
marché,
au marché, et qui promettait, parce que ce qui est intéressant de voir avec le paysage politique aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est quand même toutes les promesses qui ont été faites, c'est-à-dire que les citoyens, quand on entend les témoignages des citoyens, qui sont hyper déçus, et qui n'ont pas choisi les travaillistes par adhésion. C'est-à-dire que là, ils en ont marre des conservateurs. Ça fait 14 ans, ils ont eu le Brexit, ils ont eu des promesses et ils ont vécu quand même pas mal de scandales. Juste entre parenthèses, avant toutes les parties sur les promesses de redresser l'économie, en plein Covid, c'est quand même
ces fameuses fêtes au 10 Downing Street.
Alors que tout le monde était interdit, enfin, il y avait une interdiction de circuler, de se réunir, le Premier ministre n'a pas donné l'exemple. Et puis, Rishi Sunak, récemment, a quand même écopé d'amende parce qu'il était dans sa voiture sans ceinture de sécurité. Bon, on sait ce que c'est, ce que ça représente là-bas, mais c'était important. Mais c'est un tournant aussi à souligner quand on voit ce qui se passe, notamment avec les autres pays en Europe, avec la montée de l'extrême droite, et que là, ils sont en train de basculer. C'est intéressant, mais je souligne aussi que celui qui a beaucoup porté l'idée du Brexit, Nigel Farage, qui l'a fait aussi son entrée, n'est-ce pas
Une percée de la droite dure.
C'est un chiffre qui est quand même inquiétant, et qui, alors qu'ils voient bien aujourd'hui les conséquences du Brexit.
Keir Starmer, ancien avocat spécialiste des droits humains, a donc été chargé par le roi Charles III de former un nouveau gouvernement. J'aimerais que l'on s'arrête un moment sur cet homme perçu comme sérieux et responsable, d'après les médias et la presse britannique. Fatim Djedjé à Abidjan, comment a-t-il réussi, selon vous, à se placer comme l'alternative face au pouvoir conservateur?
Ce monsieur, d'après le profil et le portrait qu'il a été dressé, est un homme du peuple, qui est venu en politique assez tardivement et assez consensuel. Voilà. Donc il a réussi à prendre.
Est-ce que c'est justement cette forme de consensualité qui a, d'une certaine manière, séduit les électeurs après des passages au 10 Downing Street comme Rishi Sunak, Liz Truss ou encore Boris Johnson?
Ça peut jouer, mais je pense qu'il y a un ras-le-bol général. Au-delà de cette bascule idéologique, c'est l'envie d'un changement. Un changement profond qu'on ressent dans tous ces pays européens. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, leur tête est clairement mise à prix. Et je pense qu'avec cette valse aussi des premiers ministres au Tenet Garden Street, à laquelle on a assisté, c'était le début de la fin. Ça ne pouvait pas tenir.
Des premiers ministres, qu'il faut le rappeler, n'avaient pas été élus, hein, mais qui se succédaient sans forcément passer par la case des élections. Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, les travaillistes ont effectué une refonte de leur parti, notamment en 2020. Keir Starmer a en quelque sorte recentré le nouveau parti travailliste, se présente même comme le parti naturel des entreprises. Wuldat Mama à Cotonou, les travaillistes ont-ils bénéficié d'une forme d'attractivité ou d'un rejet profond du Parti conservateur?
Oui, alors je doute, Namori, de l'attractivité de Keir Starmer. C'est quelqu'un qui a fait peu de promesses, qui a recentré, vous l'avez dit, le parti, qui finalement recycle quelque part les recettes du blairisme. Donc, peu de promesses à part sur la question du logement, qui est très importante là-bas et bien au Royaume-Uni. Donc, c'est plus réellement une force de rejet violente et bien de 14 ans de gouvernance conservatrice qui est observée ici de la part des électeurs et aussi peut-être un backlash des promesses non tenues des tenants les plus durs du Brexit. À ceci, il faut faire exception parce qu'effectivement, on a une poussée de Nigel Farage qui était aussi un des Brexiteurs les plus intransigeants. Il faut dire qu'à l'image de la déroute du Parti conservateur, on a l'ancienne Premier ministre de quelques jours seulement, Liz Truss, qui n'a même pas pu...
47 jours au pouvoir.
Qui n'a même pas pu conserver son siège. Donc là, je pense que c'est un instrument de mesure là aussi. Ça permet de jauger la défiance et le rejet des électeurs du corps électoral britannique vis-à-vis du Parti conservateur.
Alors,
je voudrais également revenir sur cette question qui est très importante ici en Afrique, la perception du Royaume-Uni sur cette sous-prétence de la
question. Alors justement, vous me précédez, mais... Keir Starmer et son parti, le Parti Travailliste, ils ont fait des promesses dans leur programme de campagne. Lors de sa prise de parole hier, Keir Starmer a déclaré « Le changement commence maintenant et le temps est venu pour nous d'agir ». Parlons-en justement de ces marges de manœuvre. En a-t-il vraiment la capacité ?
Alors, c'est quelqu'un de toute évidence qui n'est pas là. Il a promis de ne pas augmenter vraiment les impôts. Ce n'est pas une force d'irruption, de perturbation.
Et pourtant,
il ne va pas aller
changement.
Questionner. Oui, le changement, mais quel changement? Il va certainement améliorer le statut du NHS, mais en aucun cas engager une croisade contre le capitalisme en vertu, encore une fois, de cet alignement centriste.
Alors, dans leur programme, les travaillistes souhaitent augmenter le budget de l'éducation, celui de la santé. Vous venez de le rappeler, Wuldat Mama. Sur l'immigration, ils promettent qu'ils n'enverront pas les migrants au Rwanda. Karine Orio, selon vous, cette promesse pourra-t-elle être tenue, respectée?
La question de l'immigration est extrêmement sensible, mais ce qui est important aussi, c'est que, si vous voulez, les mesures qui avaient été prises par l'ancien gouvernement, c'était notamment dans l'accord avec le Rwanda, ça nécessitait un certain nombre de fonds. Il fallait financer effectivement l'accueil, le retour en tout cas des migrants au Rwanda. Maintenant, il est clair qu'ils sont...
On parle de plusieurs millions de dollars.
Absolument. Il est clair que là, le gouvernement va avoir besoin d'argent. C'est une évidence. Et je pense qu'il a plutôt... Il ne fait pas de promesses, et ça, c'est déjà intéressant. Il est plutôt pour un dialogue social. Et je pense que la question de l'immigration sera abordée différemment. Et puis lui, d'ailleurs, il prône un meilleur dialogue avec l'Union européenne. Donc je pense qu'il est possible de trouver comment gérer la question de l'immigration sans que ce soit un retour, parce que on trouvait que c'était scandaleux, effectivement, que les migrants retournent au Rwanda.
Fatim Djedjé, n'est-ce pas là un exemple concret des conséquences politique lorsqu'une forme de populisme devient la seule et unique manière de convaincre les électeurs. Et je fais la référence aux 14 années du règne conservateur en Grande-Bretagne.
Non, moi je pense qu'à un moment, il y a aussi l'épreuve de l'exercice du pouvoir. Vous savez, ces dernières décennies, on ne le dira jamais assez, on a eu des alternances, là pas précisément, mais on a eu aussi des partis politiques au pouvoir. Et l'épreuve de l'exercice de pouvoir fait que les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes, d'exigences, mais ils voient bien que de manière générale...
Mais lorsqu'on fait des promesses que l'on ne peut pas respecter, est-ce que ce n'est pas ça qui conduit forcément et fatalement à la défaite ?
Chirac le disait, les promesses n'engagent que ceux qui les croient ou ceux qui les écoutent. Donc je pense que ce n'est même plus un problème de promesses, c'est un problème de réalité. On l'a vu avec ces crises-là, encore une fois, elles ont bouleversé le quotidien des gens. Elles ont bouleversé aussi leurs perspectives. Donc c'est un sentiment général d'angoisse qui prédomine partout dans le monde, mais a fortiori en Europe et la Grande-Bretagne, même si elle a quitté l'entité Union européenne, voilà, le subit aussi. Donc je pense que c'est vrai que c'est facile de critiquer les hommes politiques en disant qu'ils ne tiennent pas leurs promesses, mais moi je me demande vraiment quels sont les leviers qu'ils ont. Vous le disiez tout à l'heure, l'immigration, il ne va pas faire quelque chose de spectaculaire, on ne peut pas faire demi-tour. Il va se rapprocher de l'UE, il ne va pas réintégrer la Grande-Bretagne, donc je pense que sa marge de manœuvre est extrêmement limitée. Vraiment extrêmement limité.
Dans un pays qui subit encore les conséquences économiques du Brexit, hein, la sortie de l'Union européenne. La situation au Royaume-Uni, bien évidemment, elle est à suivre sur RFI avec nos journaux et les reportages de nos correspondants sur place.
Je ne marche pas aussi facilement qu'autrefois, je ne parle pas aussi aisément qu'autrefois, je ne débat pas aussi bien qu'autrefois, mais je sais ce que je sais comment dire la vérité. Je sais faire ce boulot, je sais faire avancer les choses, je sais comme des millions d'Américains que lorsqu'on est abattu, on se relève. Je vous donne ma parole de Biden, je ne me représenterai pas si je ne croyais pas de tout mon cœur et de toute mon âme que je peux faire ce boulot. Parce que franchement, les enjeux sont trop importants. Les enjeux sont trop importants.
Joe Biden, le président américain qui tente de rassurer ses soutiens alors que les doutes quant à sa capacité à diriger les États-Unis prennent de plus en plus d'ampleur. La question du maintien de sa candidature dans la course à la présidentielle de novembre prochain fait la une des médias aux États-Unis, notamment depuis le débat sur CNN face à Donald Trump et qualifié de calamiteux par une grande partie de la presse américaine. Lors de ce débat, Joe Biden, âgé de 81 ans, est apparu hagard, confus et s'exprimant de manière inintéressante. Intelligible. Une performance désastreuse. Résultat, l'âge et les capacités du commander-in-chief interrogent. Karine Oriot, Joe Biden doit-il laisser la place à un autre candidat ?
Moi, je ne parlerai pas. Je pense que les notions d'agisme et de jeunisme ne sont pas forcément celles qu'il faut poser ici. Effectivement, il a eu une prestation qui était désastreuse. Et je partage le scepticisme de certains. Il n'aurait peut-être pas dû se présenter dans cet état parce que Donald Trump en face de lui, enfin, il n'y a pas une si grande différence d'âge. Et puis,
Sauf qu'il est apparu un peu plus rassurant.
Oui, mais bon, Donald Trump, c'est quelle personnalité ? Enfin, quand même. Et puis, dire qu'il est meilleur au golf, c'est pas là-dessus qu'on va juger le président de la première puissance. Effectivement, c'est un spectacle désolant. Et d'autant que je pense que les démocrates auraient dû proposer quelqu'un d'autre. Cependant, les sondages aux États-Unis montraient que la personnalité qui était la plus à même de battre Donald Trump, c'est Biden. Et donc le cercle proche de Biden, le cercle qui le conseille, a tenu absolument à ce qu'il fasse ce débat. Même si le duel télévisé aux États-Unis ne détermine pas forcément l'issue de l'élection. Et puis par ailleurs, ce que je tiens à préciser, c'est que vous le savez comme moi, que ce débat a été en tout cas réalisé dans les conditions où on disait effectivement pas de prompteur, pas de fiche, chacun pouvait choisir. Et puis les modérateurs, je suis désolée, c'est peut-être nos confrères, mais ils n'ont pas du tout assuré. Il n'y avait pas de fast-checking, on ne savait pas. Donald Trump a avancé un certain nombre de fausses informations, il n'a pas pu être corrigé. Bon. Effectivement, c'est un spectacle désolant des deux côtés pour les États-Unis.
Alors, plusieurs médias américains, dont l'influent New York Times, ont appelé Joe Biden à se retirer. Wuldat Mamad, après vous, le président américain est-il apte à rempiler à la Maison-Blanche en novembre prochain ?
Je doute qu'il en soit apte. Je n'ai rien contre Joe Biden personnellement, mais je pense vraiment que pour défendre les couleurs du Parti démocrate, il n'est pas le meilleur candidat, je dirais, dans l'absolu. Après, cela est à relativiser les alternatives présentes. C'est vrai que Kamala Harris est impopulaire. Sa vice-présidente a été jugée assez inefficace et puis effacée par rapport à Joe Biden. Vous avez un certain nombre de candidats des talons du Parti démocrate, mais qui sont un peu loin dans la course, qui n'apparaissent pas encore, qui ne se sont même pas préparés à tailler leur image de présidentiable. Donc tout ça se fait un peu dans la va-vite. Pour ce qui est d'aujourd'hui, Joe Biden refuse pour l'instant.
Il a indiqué qu'il ne se retirera pas.
Un autre candidat. Voilà, donc pour l'instant, il campe sur ses positions. Du côté des classiques du Parti démocrate, on discute quand même toujours de cette éventualité. On fait mine de faire bloc derrière Joe Biden, mais les questions continuent de fuser. Il faut quand même dire que le cas démocrate relève quand même un problème la relève du pouvoir.
Alors...
vous avez, à un moment donné, en 2019, Joe Biden était apparu comme le seul candidat démocrate, le plus petit quelque part dénominateur commun, à même de faire tenir ce parti qui était écartelé et qui était tiraillé surtout par sa gauche, par Bernie Sanders et puis une jeune garde du parti qui a été représentée par le Squad, ces quatre élus démocrates dont Alexandria Ocasio-Cortez, extrêmement populaire et avec une réelle...
Et ça a été justement l'occasion de voir les divisions qui traversaient le Parti démocrate. Karine Oriot voulait réagir à vos propos, Will Dutman.
Mais par contre, vu tous les bruits, toutes les réaction qu'il y a eu suite à ce débat, Joe Biden a quand même reconnu qu'il s'était planté dans ce débat et a promis de faire mieux lors de l'interview qui sera enregistrée face à un journaliste, donc on ne sait pas, peut-être ce sera coupé au montage. Il demande d'une certaine manière une seconde chance.
Fatim Djidji à Abidjan, alors comme l'a dit Karine, on n'est pas là pour faire du jeunisme, néanmoins peut-on à 81 ans diriger les États-Unis avec tout ce que ça implique pour le titulaire de la fonction?
Alors moi, je ne sais pas si c'est l'âge qui est vraiment problématique, mais plutôt l'état de santé. J'ai suivi vraiment avec beaucoup d'attention.
Alors, selon les médecins de la Maison-Blanche, la santé du président américain se porte bien.
Parce que vous savez très bien qu'on est tous inégaux face à l'âge. Deux individus du même âge n'ont pas les mêmes capacités physiques, intellectuelles. Donc moi, je pense que l'âge, bien sûr que 80 ans, ça paraît âgé. C'est évident. Oui, mais c'est plutôt son état de santé. Moi, de le voir hagard, de le voir perdu dans ses pensées.
Alors, son adversaire Donald Trump, lors de ce débat, a proposé de faire un test cognitif du président américain. Vous pensez qu'il faut le faire ?
Moi, je pense que ça devrait être obligatoire pour tous les chefs d'État, pour tous ceux qui prétendent vouloir conduire la destinée d'une nation. Je pense que c'est important.
Ça fait réagir Karine Orion en studio.
Fatih, moi, je tiens aussi à préciser qu'on met tout sur le chef de l'État, mais il n'est pas le seul à gouverner un pays. C'est toute une équipe, c'est tout un staff.
Qui tranche, finalement, c'est lui. Donc, son rôle, à part si, bien sûr, il vient que pour, pour un rôle juste symbolique, on peut l'entendre. Mais il fait partie de cette grosse machine. Et donc, je pense que la santé est plus importante que l'âge.
Au bout moment, en 2016, Joe Biden avait dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Il est revenu sur sa proposition, il s'est lancé dans un deuxième mandat. N'était-ce pas à ce moment-là qu'il fallait agir de la part des dirigeants du Parti démocrate?
Il avait promis d'être un président de transition, finalement, pour symboliser une ère post-Trump et l'arrivée d'une nouvelle génération, justement. C'est ce qui lui a permis, justement, de faire consensus là où c'était difficile au sein du camp démocrate. Est-ce que le camp démocrate a manqué de créativité, d'imagination, de sens politique? C'est une question qui est tout à fait pertinente.
Les questions et les doutes subsistent aux États-Unis quant à la capacité de diriger le pays de la part de Joe Biden, le président américain. Karine Oriot, depuis le début du mandat de Joe Biden, aucune figure démocrate n'a vraiment émergé. Est-ce à dire que le parti n'a plus de figure à même de diriger le pays après Joe Biden?
Non, je pense que c'est un calcul qui a été faussé par les démocrates, c'est-à-dire que l'équipe de communication politique ne voulait pas, effectivement, étant au courant des faiblesses de Joe Biden, n'a pas voulu mettre en avant. On a parlé tout à l'heure de Kamala Harris, vice-présidente. Enfin, le dernier élément qui est tellement important dans cette élection, ça va être les donateurs. C'est est-ce que les donateurs continuent de financer la campagne de Biden ? Et c'est là aussi où ça va se décider.
Et c'est avec les mots et le point de vue de Karim Oriouf, notre consort camerounaise, que nous allons clore ce débat africain. Merci infiniment à toutes les trois d'avoir apporté vos regards et vos analyses sur l'actualité de la semaine en Afrique et ailleurs dans le monde. Ce débat africain, vous pouvez d'ores et déjà le retrouver et le réécouter sur l'application mobile RFI Pure Radio. Merci à l'équipe grâce à laquelle nous vous proposons chaque semaine cette émission. Delphine Michaud à la coordination et Taghimfa Traoré à la réalisation. De Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria et Alger, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains sur un monde en perpétuel mouvement.